CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIO Radio TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, et il nous reçoit dans ses locaux, c'est Thierry Cartala. Bonjour, merci Thierry.
Bonjour Billy.
Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, notre invité est Arnaud Masson. Bonjour Arnaud.
Bonjour Billy.
Merci d'être présent. Vous êtes directeur exécutif digital et sightseeing de RATP Dev. Et il faut entendre par Dev, évidemment, développement. C'est un vrai Parisien que j'ai en face de moi. Ça tombe bien pour parler de la RATP, non ?
Oui, depuis plusieurs générations d'un côté. C'est vrai que j'avais des arrière-grands-parents brasseurs rue Daguerre.
Ah oui ?
Et puis, ma mère est née dans le 14e, mon grand-père aussi, donc, et moi-même.
Bon, allez, on va rester dans la capitale puisqu'on parlera de votre cœur de métier tout à l'heure. D'après ce que j'ai compris, vous êtes ce qu'on appelle un littéraire contrarié. Vous adorez la littérature, vous étiez littéraire plus que matheux quand vous étiez plus jeune et vous allez pourtant faire un bac C parce qu'à l'époque, quand on ne faisait pas un bac C, on n'avait pas beaucoup de perspectives de faire des études sérieuses, entre guillemets.
Ouais, je dirais pas ça, je dirais que c'était plus parce que je savais pas trop quoi faire, donc on va dire que la voie des prépas s'ouvrait quand même à moi parce que j'étais plutôt bon élève, mais pas spécialement doué en maths, non. Mais c'est pas grave, j'ai travaillé pour compenser.
Absolument. Alors vous allez faire une prépa pendant 2 ans à l'EDAC, et à la clé, vous aurez un master. Ensuite arrive quelque chose d'important pour votre génération, c'est le service militaire. Vous allez faire 18 mois. Ce service militaire, vous l'effectuez en coopération à Stuttgart. Et là, je voudrais que vous me parliez un petit peu de ce que vous faisiez à Stuttgart et d'un certain DAF de Suez en Allemagne, à Stuttgart.
Ouais, ouais. En fait, j'étais assistant DAF de la filiale de Degrémont, à Stuttgart, qui faisait du traitement d'eau. Et donc, je me suis retrouvé pendant 18 mois à Stuttgart pour l'accompagner et l'aider, en ayant fait une majeure marketing, mais c'est pas grave, c'était les hasards des affectations du service militaire, qui n'était pas militaire, qui était civil en l'occurrence, mais qui m'a appris au moins une chose, c'est après 10 ans d'allemand à l'éducation nationale, de pouvoir enfin le parler, grâce à mes 18 mois à Stuttgart.
Ça vous a donné aussi le sens, non pas des responsabilités, mais du métier.
Oui, c'est sûr.
C'est une sacrée alternance quand même.
Bah, c'est une belle alternance, c'est une façon aussi d'apprendre un certain nombre de process, de procédures, les fonctions de reporting, et puis la rigueur aussi des remontées et la régularité. Donc ça, c'est des choses qui restent ensuite quasiment à vie.
Voilà. En plus, à Stuttgart, les 2-3 jours où vous aviez un peu de temps, il y avait Porsche, il y avait Mercedes, il y avait tout ça à visiter. Hein,
oui, alors je n'avais pas trop forcément les moyens de les acheter non plus.
Non, mais les regarder.
Oui, voilà, c'est ça, dans la rue, il y en avait.
Alors, vous quittez ce service militaire, évidemment, au bout de 18 mois, vous rentrez en France. Et là, je trouve que vous faites fort, encore une fois. Premier boulot, c'est chez L'Oréal. Et là, L'Oréal, on arrive dans un groupe assez fort quand même.
Bien constitué. Ouais, en fait, j'avais envie de voyager. J'aimais bien l'international, et donc j'avais ciblé mes recherches sur de l'audit interne, pareil pour apprendre les procédures, apprendre le groupe, apprendre différentes fonctions et gestion de l'entreprise, parce que c'était un audit très très généraliste et qui permettait de découvrir un certain nombre de processus. Et donc j'ai été pris chez L'Oréal. Voilà, je crois que j'étais un des premiers élèves à être pris à l'époque, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de demandes. Et ça a été 3 années très intéressantes à voyager pour toutes les divisions dans beaucoup de pays du monde, puisque L'Oréal est quand même une des belles réussites internationales de la France.
Absolument. Alors après L'Oréal, là vous me bluffez encore, même si ça dure qu'une petite année, vous rentrez chez Apple. Apple, L'Oréal, c'est une belle carte de visite quand même.
Oui, j'étais rentré un peu dans la fonction finance de chez L'Oréal, et puis comme moi je voulais évoluer vers du commercial et du marketing déjà un peu à l'époque, L'Oréal Montréal, c'était pas comme ça que ça marchait. Une fois qu'on était rentré dans une fonction,
ah bah, on y reste à vie. Hein.
Voilà, donc du coup, pour changer, je me suis dit, tiens, j'avais répondu à une annonce, j'avais été pris chez Apple Europe, le siège européen d'Apple, aux Ulysses. Alors, je m'étais pas rendu compte que c'était quand même assez loin, et donc c'est pour ça que ça n'a duré qu'un an, parce que les trajets sur la Nationale 118, au bout de 12 mois, j'en avais... Je pense que j'avais fait le tour.
Les travaux, un peu de gel, on ferme 118,
c'est compliqué. C'est moins drôle.
Alors, 2002, ça va être important parce que commence une belle histoire avec la SNCF. Vous êtes responsable grand voyageur. Ensuite, toujours pour le groupe, SNCF, vous devenez directeur marketing de CRM. Tout ça, ça a été un lancement totalement différent dans votre carrière, mais qui était important.
Oui, c'était important. C'est-à-dire qu'après une expérience start-up où on éditait des logiciels de fidélisation et d'affiliation, grâce à ce lien sur la fidélisation, je suis rentré dans le programme de fidélité Grand Voyageur. Et c'était l'époque où la SNCF avait déjà entamé le début de sa révolution client sous la férule de Guillaume Pépi. Et donc, Grand Voyageur en était un des attributs, puisqu'il fallait reconnaître les voyageurs les plus fréquents. Et c'était aussi le début, on va dire, d'un qui était un peu le CRM et l'animation marketing par la data et les cartes commerciales.
Alors, autre belle aventure dans votre carrière, 6 ans à Londres, et pas pour n'importe quoi, c'est l'Eurostar.
Oui.
Belle expérience aussi. Et puis, vous allez être débauché par Ramsay Général de Santé, donc vous quittez la mobilité, qui est le fil conducteur quand même depuis le début de votre carrière. Mais en 2016, retour à la maison mère, j'ai envie de dire, SNCF, avec le programme Oui, qu'on a tous découvert. Et puis depuis 2020, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous êtes à la RATP, donc toujours dans la mobilité, DEV, qui veut dire développement. Alors Thierry, l'urban mobility, comme on dit, de demain, est-ce qu'elle sera entièrement automatisée par l'intelligence artificielle? C'est peut-être une des questions qu'on va creuser avec Arnaud.
Oui, on va la creuser, puis on adore accueillir des ferrous 8 pattes qui maîtrisent bien le système ferroviaire français, qui est quand même complexe. Oui, on se pose un peu la question, effectivement, comment vous allez accompagner les équipes de RATP Dev sur cette projection des savoir-faire francophones à l'étranger, puisque ce sont des gros appels d'offres. On parle de Sydney, on parle effectivement de villes aux États-Unis, qui aussi sont dotées d'infrastructures de transport assez denses et assez complexes, mais différentes de notre cher réseau parisien. Comment vous voyez effectivement votre rôle de directeur exécutif pour accompagner les équipes d'RATP Dev sur ce sujet, pour effectivement anticiper et donner cette vision que vous devez leur apporter sur l'évolution des modes de fonctionnement? J'imagine que l'Australien était très féru de technologie. Je ne sais pas si c'est pareil au notre bout, en Asie ou ailleurs, mais comment vous accompagnez effectivement les équipes d'RATP?
Alors d'abord, il faut savoir que nous, on travaille finalement sur différents modes de transport, du bus, du tram, du train. Et plus on monte, on va dire, dans le mode lourd, plus effectivement il y a des systèmes de gestion qui deviennent complexes et compliqués. Notre deuxième caractéristique, c'est que nous, notre métier, c'est d'abord de gagner des appels d'offres à l'international, donc d'éplucher le cahier des charges et de répondre exactement de la meilleure manière possible à ce cahier des charges. Et donc dans ce cahier des charges, il y a un certain nombre de choses qui nous sont demandées et notre métier, c'est d'y répondre précisément. Précisément. Vous parlez de Sydney, effectivement, on a gagné l'appel d'offres de Sydney Metro Ouest, donc on est maintenant, comme d'autres champions français, un des premiers groupes à l'international pour avoir gagné cette référence en Australie. Et donc, l'objectif, c'est que on va répondre à ce qu'ils nous demandent, et ce qu'ils nous demandent, effectivement, c'est un cahier des charges ambitieux, parce qu'ils ont des grandes exigences, notamment en termes de temps réel, en termes de sécurité, tout ça, c'est le savoir-faire des équipes du groupe RATP au service de développement international qu'on vient apporter à nos clients.
D'accord. Et donc, comment ça fonctionne? RATP amène des solutions qu'elle a conçues elle-même pour ses clients, ou est-ce que c'est du sur-mesure à chaque fois?
Non, on a des solutions. Alors, on a des solutions innovantes, par exemple, d'analyse de trafic avec une start-up qui s'appelle Citio et qui développe, on va dire, une capacité via de la data, via de l'IA et via des algorithmes maison de pouvoir faire des analyses et proposer des optimisations optimisation de trafic et de gestion des réseaux de transport. On a aussi un produit qui s'appelle Mentup, donc un produit maison qui permet d'optimiser la maintenance et puis de faire un certain nombre de veilles en temps réel sur tous les matériels. Et ça, ça permet, quand on le met dans les appels d'offres, parfois de faire la différence vis-à-vis de nos concurrents.
Et alors, du coup, ça pose effectivement on voit bien une tendance à l'accélération de l'automatisation. On a déjà des lignes automatiques à Paris, à l'étranger, beaucoup. Les systèmes de supervision, comme vous l'avez dit, sont des systèmes qui peuvent être de plus en plus complexes. Mais est-ce que les systèmes de supervision vont devenir complètement automatisés demain? Est-ce qu'éventuellement, il y a des limites fournies par les donneurs d'ordre ou les tutelles politiques pour limiter un peu, je dirais, ou au contraire, laisser aller une IA pour superviser elle-même toutes les rames de métro à Sydney, par exemple?
Ouais, je pense que de toute façon, ça reste du domaine, de la sécurité ferroviaire. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes ultra sécurisés, notamment en termes de cybersécurité, parce que tout est automatisé, il ne faut pas que quiconque puisse prendre le contrôle de cet automatisme. Donc, on est effectivement, nous, très attentifs à toute la partie cyber, parce que c'est un des nerfs de la guerre dans le transport. Il y a toujours effectivement des procédures avec des gens qui les appliquent pour pouvoir être, on va dire, en double contrôle sur des questions de sécurité, notamment quand on est dans la mobilité et de la mobilité complexe comme le métro.
D'accord, pas eu d'attaque particulièrement dévastatrice sur l'un des réseaux
Non, jusqu'ici tout va bien. On y travaille évidemment tous les jours et c'est vraiment une question, je dirais, d'importance fondamentale pour le groupe RATP. Je sais qu'il y a le président Castex a rattaché directement le responsable de la cybersécurité groupe lui est rattaché directement et on travaille en étroite collaboration avec cette cellule sur l'ensemble des filiales et organisations du groupe, donc RATP Dev elle-même est rattaché à cette cellule de cybersécurité.
Comment vous faites vos choix d'hébergement chez RATP Dev? Vous mettez ça sur du cloud
public? On est sur du cloud, on est sur AWS.
D'accord, y compris pour toutes vos solutions à l'étranger?
Ouais.
D'accord. Et alors qu'en France, moins. J'imagine que le réseau RATP, lui, est sur un environnement plus privé, non? Ou est-ce que...
Alors ça, c'est moi, je peux répondre sur la partie RATP Dev, sur la partie.
J'entends. Mais pour les solutions RATP Dev, c'est du cloud public qui a été choisi. Et donc les systèmes de défense cyber sont montés sur ces architectures.
Absolument.
Amazon.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Dernier point, l'augmentation effectivement des agents, effectivement, puisque la plupart des métros sont automatisés, mais il y a quand même tous les systèmes de supervision. Toute cette réflexion autour effectivement de l'augmentation, vous avez des cas d'usage intéressants à nous partager via des IA qui effectivement aident les systèmes de supervision ou les superviseurs à améliorer, je dirais, par exemple, le cadencement des rames, la qualité, superviser éventuellement les flux voyageurs, améliorer la sécurité à bord.
Ouais, on a plein de cas d'usage. Alors après, je vais pas les détailler parce que ça serait fastidieux, mais parfois on part dans un cas d'usage avec une idée et puis en fait on s'aperçoit, c'est un peu comme dans la recherche, que finalement l'outil nous amène d'autres solutions. C'est comme ça que l'outil de maintenance Mentum dont je parlais la dernière fois nous a non seulement ouvert les yeux sur un certain nombre de sujets maintenance, mais aussi nous a permis de nous rendre compte que dans notre organisation, on pouvait économiser 15% d'électricité sur des rames qui étaient préparées dans le dépôt, mais non utilisées. Et donc ça, c'est en termes d'optimisation et de productivité, c'est très important. Donc ça, c'est sur la partie productivité, mais il y a aussi toute la partie voyageur, parce qu'on parle de l'IA beaucoup pour... on pense à un système industriel, mais on a aussi des apps, on a aussi des sites, et puis on a des clients qui nous contactent, ou qui contactent nos clients autorité organisatrice pour dire qu'ils sont contents ou moins contents, et donc on a des IA qui capturent en fait aussi tout le retour client et puis ils nous donnent une sorte de chaleur ou de mood board du client en temps réel. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait par exemple en Toscane avec notre outil pour regarder quel est quel est le mood des clients toscans, puisqu'on gère l'ensemble des transports publics de Toscane.
Voilà, bah merci beaucoup pour vos questions, Thierry. On a eu des réponses incroyables quand même.
Oui, on a hâte d'avoir la symétrique sur le métro parisien du mood board.
Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, on va terminer. Arnaud, tout à l'heure, vous nous avez dit j'ai fait un choix en début de carrière avec L'Oréal parce que j'ai beaucoup voyagé. Effectivement, vous avez beaucoup voyagé et en plus, vous avez une passion dans la vie, c'est le rugby. Et finalement, oui. Avec ce sport, alors aujourd'hui, pratiquez plus le rugby.
Non.
Vous le regardez dans les stades ou à la télé. Mais avec tous ces voyages que vous avez faits, vous avez eu l'occasion de jouer un match de rugby à Tokyo.
Oui.
Incroyable ça. Oui. C'était les Français expatriés contre les Anglais expatriés de Tokyo.
Alors il y avait déjà un petit lien avec la mobilité puisqu'on s'est retrouvé au bout d'une ligne RER japonaise et c'était une sorte de champ de riz, une rizière voilà qui était et on a joué effectivement ce match qui est un très bon souvenir personnel.
Vous avez gagné.
Je me souviens même plus, mais c'est quasiment pas le, enfin c'est pas le plus important.
Troisième mi-temps qui compte.
C'est la troisième mi-temps qui compte. Elle s'est faite en français, en anglais.
Elle s'est faite plutôt en anglais avec pas mal de saké.
Voilà. Bon, en tous les cas, merci de votre visite. Merci d'être venu nous parler de la RATP DEV, puisque en France, on parle métro. On dit toujours il y a un problème. On voit que la RATP va plus loin et on espère un jour avoir tout automatisé, tout de formidable dans le métro. Merci à Thierry de nous avoir reçus. Et c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.